إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous nous réunissons aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission pour continuer l'étude du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre 10, chapitre 11 dans certaines versions du livre. Le titre de ce chapitre, on ne sacrifie pas pour Allah en un endroit où on sacrifie pour autre que lui. Ce chapitre suit logiquement le chapitre précédent. En effet, dans le chapitre précédent, nous avons vu le statut de sacrifier pour autre qu'Allah, que c'était un acte interdit du polythéisme majeur. Alors ici, l'écrivain, rahimahullah, a voulu préciser que parfois, même si on veut faire un acte qui est pour Allah, qui est le fait de sacrifier pour Allah, mais il sera interdit de le faire dans un lieu où les polythéistes sacrifient pour autre qu'Allah. Quand il dit dans un lieu, c'est-à-dire dans le lieu ou à proximité de ce lieu où il y a des sacrifices qui sont faits pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour clarifier les choses, imaginons un lieu où des bêtes sont sacrifiées pour autre qu'Allah, près d'une tombe par exemple, un lieu visité ou un lieu vénéré par les polythéistes et les fabulateurs qui égorgent leurs bêtes pour l'occupant de la tombe et ont d'autres types d'adoration et d'agissement dans ce lieu-là. Alors, il ne sera pas permis aux musulmans monothéistes d'égorger une bête en cet endroit, même s'il le fait sincèrement pour Allah et par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il se retrouve dans une situation de ressemblance aux polythéistes dans la vénération des lieux où ils accomplissent différents types d'adoration voués à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, sacrifier une bête pour Allah seul et pour personne d'autre en un endroit où des gens cherchent à se rapprocher d'autres qu'Allah n'est ni permis ni autorisé. C'est même un moyen facilitant le polythéisme et poussant à vénérer cet endroit. Dès lors, cet acte est interdit et c'est une des voies qui mène au polythéisme. On va détailler ce point-là en citant le verset et le hadith que le cheikh rahimahullah a cité. Donc il a cité, Allah le Très-Haut a dit, « La taqum fihi abada » dans surat al-Tawbah, verset 108. Ne te tiens jamais debout pour prier dans cette mosquée. Cette interdiction d'Allah tabaraka wa ta'ala est dirigée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il lui a interdit de prier dans Masjid al-Dirar, la mosquée d'Al-Dirar. La mosquée d'Obdera, c'était une mosquée que les hypocrites ont construite à Médine. Leur objectif était de diviser les musulmans et de faire opposition à Allah et à son messager. Ils y manigançaient avec les têtes de la mécréance pour faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam, prétextant qu'ils ont fait cette mosquée pour accueillir pendant les périodes de froid les pauvres et les faibles parmi les musulmans. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit de prier dans cette mosquée, car les hypocrites lui ont demandé: viens prier dans cette mosquée au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit plus tard, et il est parti à la bataille de Tabouk. Sur le retour, Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé ces versets: de ne pas prier dans cette mosquée. Il a donc ordonné aux musulmans d'aller la détruire, car Allah ta'ala lui a révélé les intentions et l'objectif de la construction de cette mosquée qui est Masjid al-Dirar. Le fait d'aller prier dans cette mosquée, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ne vont pas aller prier là-bas pour autre qu'Allah. Ils vont prier pour Allah, mais du fait qu'en apparence leur acte ressemble à l'acte des hypocrites, qui eux prient, mais qui ne prient pas pour Allah Ta'ala, qui cache le kufr akbar. Donc ceci pourrait tromper les croyants, faire croire qu'il est permis d'aller prier dans cette mosquée, qu'il n'y a pas de mal à prier avec ces gens-là. Deuxièmement, cela augmente le nombre des égarés, cela augmente leur rang, et ceci est interdit aux musulmans d'augmenter les rangs des égarés, d'aller avec eux augmenter leur nombre. Cela leur donne de la force, cela les encourage à continuer dans leur égarement. Ceci est valable avec les mécréants, et c'est valable aussi avec les innovateurs, les mubtadi'a, car comme les savants disent, tous les versets dans le Coran qui parlent des hypocrites, ils visent aussi les innovateurs en islam, car les innovateurs en islam sont ressemblants aux hypocrites de l'hypocrisie majeure, même si on ne les rend pas mécréants par leur innovation. Certaines innovations qu'ils font ne les sortent pas de l'islam. Mais en quoi ils leur ressemblent? Ils leur ressemblent car ce sont des ennemis de l'intérieur, comme les hypocrites qui montrent l'islam mais qui cassent, qui détruisent l'islam de l'intérieur. Les innovateurs sont les mêmes, ils sont musulmans, ils sont dans les rangs des musulmans, mais ils détruisent l'islam de l'intérieur, contrairement aux ennemis extérieurs. Ça que les savants utilisent dans leurs argumentaires pour répondre aux innovateurs et dans la manière de se comporter avec les innovateurs, les versets et les hadiths qui parlent des hypocrites. L'écrivain, rahimahullah, Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, a cité ce verset car il y a en cela une analogie qui est très pertinente du fait qu'Allah Ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prier pour Allah dans cette mosquée. Donc de même, comme Allah Ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée pour Allah, il ne sera pas autorisé à un musulman de sacrifier pour Allah en un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a cité un hadith spécifique dans ce domaine-là. Le hadith de Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu, qui a dit: un homme avait fait le serment pieux de sacrifier une chamelle à un endroit nommé Bouana. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: s'y trouvait-il une idole adorée dans la période anti-islamique? On lui répondit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua: y célébrait-on une fête polythéiste? La réponse fut la même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: respecte ton serment, car on ne doit pas respecter un serment dans la désobéissance à Allah ou concernant des biens que l'on ne possède pas. Le hadith est rapporté par Abu Dawood avec une chaîne de rapporteurs remplissant les conditions d'authenticité de Bukhari et Muslim. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'a questionné sur cet acte, il a demandé des détails, il a demandé des éclaircissements, car le besoin s'en faisait sentir. Cette question indique que si cette caractéristique avait été présente, à savoir la présence antérieure d'une idole adorée du temps de la Jahiliya, alors le sacrifice n'aurait pas été permis en ce lieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce hadith a été cité dans ce chapitre. Il a demandé aussi si on y célébrait une fête parmi les fêtes de l'Jahiliya. El-Eid, en langue arabe, cela concerne une chose qui se répète, ou bien qui se répète dans le lieu, un lieu qui est visité constamment, où les gens viennent constamment à répétition le visiter, ou bien qui se répète dans le temps. C'est-à-dire que chaque année, à la même date, les gens fêtent cette fête-là. Donc El-Eid, dans la langue arabe, ça veut dire la chose qui se répète, ou dans le lieu, dans le sens où les gens répètent leur visite à ce lieu-là constamment, ou dans le temps, dans le fait que les gens répètent la célébration de cette fête à chaque même période, chaque année, ou chaque mois, ou chaque deux ans, chaque période déterminée selon leurs croyances et leurs égarements. Donc, que ce soit une fête liée au lieu, c'est-à-dire géographique, ou bien liée au temps, c'est interdit en islam. C'est considéré comme une fête, comme un Eid. Cela implique que les actes d'adoration polythéistes sont accomplis en ces lieux-là par ces gens-là. Et la plupart du temps, quand ils font des fêtes de polythéisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient, ils cherchent à se rapprocher à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, en sacrifiant des bêtes, en versant leur sang pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'est pas permis de s'associer aux polythéistes d'une manière qu'on pourrait leur ressembler, ne serait-ce que de l'apparence extérieure, ne serait-ce que si nos actes ressemblent à leurs actes extérieurement, en allant dans les lieux où eux, ils célèbrent leurs fêtes, pour faire des actes qu'ils font pendant leurs fêtes, ou bien en cherchant des moments que eux ils vénèrent et à laquelle ils donnent de la valeur. D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah cite ici l'exemple de l'interdiction de prier des prières surrogatoires au moment du lever du soleil et de son coucher, car ce sont des moments dans lesquels les adorateurs du feu se prosternent pour le soleil. Donc une des causes pour laquelle il nous a été interdit de prier à ces moments-là, car il y a une ressemblance aux adorateurs du feu, même si nous on se prosterne pour Allah et non pas pour le soleil. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, puisqu'il n'y avait aucune de ces causes-là, respecte ton serment, car on ne doit pas respecter un serment dans la désobéissance d'Allah. Puisque ce n'était pas un lieu où il y avait une fête parmi les fêtes des polythéistes, ni qu'on y sacrifiait des sacrifices pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à partir de là, son serment ne comportait pas quelque chose d'interdit. Il lui a donc dit qu'il était permis qu'il le fasse en cet endroit-là. Il y a certains points à éclaircir concernant cette question. Premièrement, Cheikh Ibn Baz dit, si du polythéisme ou des innovations sont accomplies auprès des tombes, ceci ne nous interdit pas nous-mêmes de faire la visite légale des cimetières. Ce n'est pas parce que des gens font cette désobéissance ou ce polythéisme ou ces innovations autour des tombes dans les cimetières des musulmans qu'il nous sera interdit à nous d'aller visiter les cimetières d'une manière légale pour se rappeler l'au-delà, pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour les morts. La dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quand on rentre dans les cimetières des musulmans, par exemple. De même, si certains font des innovations dans une mosquée, qui est une mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les mosquées des musulmans, cela ne nous interdira pas nous-mêmes d'aller prier dans cette mosquée. Le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah a dit dans les points à retenir. Premier point, l'explication de la parole divine la taqum fihi abada, ne te tiens jamais debout dans cette mosquée pour y prier. Donc on a déjà vu l'explication au début de ce chapitre. Deuxièmement, le péché peut avoir un effet sur un lieu, il en est de même pour l'acte de piété. Allahu Akbar. Effectivement, le fait qu'ils sacrifient ce lieu-là, à la base, c'est une terre parmi les terres d'Allah. Mais le fait qu'ils y sacrifient des bêtes pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela a eu un effet sur ce lieu. Le fait qu'ils y fêtent leur fête de polythéisme, cela a eu un effet sur ce lieu. De même que l'obéissance a un effet sur les lieux où on obéit. N'est-ce pas que les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées? Pourquoi? Parce que ce sont les endroits où on obéit à Allah. Et les endroits les plus détestés d'Allah sont les souks, sont les marchés, car ce sont les endroits où il y a beaucoup de désobéissance, de mensonges, de mauvaises paroles, de tentations, etc. Puis le cheikh a cité, troisième point, rapporter la question difficile à une autre évidente afin de dissiper l'incompréhension. Ici, il parle du fait que l'interdiction d'égorger dans cet endroit, c'était quelque chose qui n'était pas clair, qui était équivoque. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a éclairci en posant les questions et en donnant les conditions. Quatrièmement, le mufti, c'est-à-dire celui à qui on pose une question, peut demander plus d'éclaircissement si le besoin s'en fait sentir. Effectivement, quand on vient poser une question à quelqu'un, si la question qu'il a posée n'est pas assez claire, ou il n'a pas donné les détails qui nous permettent d'y répondre d'une manière précise, ou bien le fait qu'il ne donne pas de détails, on ne peut pas y répondre. Parce que selon le détail qui manque, la situation change. Dans ce cas-là, il sera nécessaire à la personne qui répond à la question de demander des détails, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Cinquièmement, il n'y a pas de mal à formuler un serment à respecter en un lieu particulier si rien ne s'y oppose. Parmi les choses qui s'y opposent, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici. Parmi les choses qui s'y opposent, il y a aussi le fait, par exemple, un endroit qui est à la base permis. Une personne vient demander, j'ai fait le vœu d'égorger cette bête devant cette montagne. Lui, il n'a pas une croyance précise dans la montagne. Ni il y avait une fête parmi les fêtes des polythéistes en cet endroit. Ni même des bêtes étaient sacrifiées en cet endroit pour autre qu'Allah. Mais on a peur que les gens aient une mauvaise croyance, croient qu'il l'a fait en cet endroit parce qu'il y a une certaine vertu, ou bien qu'il a une spécificité. Dans ce cas-là, le savant, en voyant que cela peut ouvrir une porte aux mauvaises croyances, il a l'obligation de fermer cette porte et de l'interdire, et de dire non, tu ne spécifies pas cet endroit pour sacrifier la bête. Sixièmement, l'interdiction de ce type de serment s'il s'agit d'un lieu où se trouve une des idoles de Jahiliya, même si cette idole ne s'y trouve plus. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce qu'il y avait dans le passé, tant qu'elle n'a pas complètement changé de situation, comme les savants ont expliqué par exemple, un ancien temple, il est transformé en mosquée. À partir de ce moment-là, tout le monde sait que c'est une mosquée où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il a complètement changé de situation, alors il n'y a pas de mal. Mais tant que sa situation est restée sur ce qu'elle était dans son passé, puis rien n'est venu changer cette situation, où on a peur que cela revienne, où les gens se rappellent que c'était un endroit vénéré auparavant. Alors même si les pratiques de polythéisme n'y sont plus pratiquées, on ne devra pas aller sacrifier dans cet endroit-là, ou bien faire des actes qui ressemblent à ce que les polythéistes faisaient en cet endroit-là. Tant que cet endroit n'a pas complètement changé de statut, ou bien que tous les actes de polythéisme et de mécréance ce qui a été fait, ont été délaissés depuis bien longtemps jusqu'à ce que ce soit oublié et que ce soit une terre parmi les terres en général. Personne ne sait que c'était un endroit spécifique pour les fêtes de polythéisme. 7. Ce type de serment est interdit s'il s'agit d'un lieu où l'on célébrait une fête polythéiste, même si cette fête n'a plus lieu aujourd'hui. C'est le même cas qu'auparavant. 8. Il n'est pas permis de respecter un serment concernant un lieu du type précité, car c'est un serment de désobéissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, respecte ton serment, car on ne doit pas respecter un serment dans la désobéissance à Allah ou concernant des biens que l'on ne possède pas. 9. La mise en garde contre la ressemblance aux polythéistes dans leurs festivités, même si ce n'est pas intentionnel. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, tant qu'il y a la ressemblance apparente, on ne conditionnera pas qu'ils aient la même intention qu'eux. Ceci est suffisant pour que cela soit interdit, même si ils ne visent pas les mêmes intentions qu'eux. Car la ressemblance est présente en apparence et ceci est suffisant. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab dit, même si ce n'est pas intentionnel. Aujourd'hui, on voit par exemple les fêtes des mécréants, Noël, le Nouvel An, les je ne sais quoi. Certains, on fait juste un repas ce jour-là. On ne fête pas Noël. On en profite pour faire tous un repas ensemble. Ce sera interdit car il aura fait un acte que les mécréants font ce jour-là spécifiquement pour leur fête, qui est le fait de se réunir pour faire un repas. Donc le musulman ne devra pas faire de repas spécifique ce jour-là, mais il devra faire un repas comme tous les autres jours. Ne pas en profiter pour faire une réunion de famille ou un repas spécifique ce jour-là. De même, il faut savoir que l'interdiction de ressemblance ici, elle est liée à un acte qui est ressemblant. Et non pas si c'est un acte qui n'est pas ressemblant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il a été rapporté qu'Omar ibn al-Khattab a autorisé aux compagnons de prier dans les églises. Est-ce que les églises, c'est pas un endroit où on adore autre qu'Allah ? Si. Alors comment on peut comprendre cela ? La permission de prier dans les églises pour Allah, on le comprend aisément. Car l'adoration du musulman pour Allah ne ressemble pas à l'adoration du chrétien qu'il fait pour la croix. Donc même si c'est dans un lieu dans lequel on adore autre qu'Allah, mais les actes ne se ressemblent pas. Donc, quand on voit un musulman prier la prière du musulman dans une église, on ne va pas se dire qu'il est en train d'adorer la croix comme un chrétien adore la croix ou adore Jésus en dehors d'Allah ou Isa alayhi salam en dehors d'Allah. C'est pour cela qu'il a été permis, en cas de besoin, de prier dans les églises. Mais en même temps, Omar ibn Khattab a interdit d'entrer dans les lieux de culte des mécréants dans leurs jours de fête. c'est-à-dire d'assister avec eux, de participer avec eux, ne serait-ce que d'être présent avec eux. Il a été posé la question concernant les salles des fêtes que certains musulmans louent pour faire la prière de l'Aïd dedans. Certains disent, oui, mais il y a des fêtes de mécréants qui sont faites dedans. Il y a des choses illicites qui sont faites dedans. Alors la question a été posée aux savants concernant ce point-là, spécifiquement dans les pays non musulmans, car dans les pays musulmans, alhamdoulilah, il y a musallayat al-Aïd, il y a des endroits spécifiés pour cela. Alors ils ont dit qu'il n'y avait pas de mal s'il n'y avait pas d'autre endroit ou si les mosquées étaient trop petites. Pourquoi ? Car les adorations que les musulmans font dans les salles des fêtes le jour de l'Aïd ne ressemblent pas aux rites ou aux adorations ou bien aux différentes choses que les non-musulmans font dans ces salles des fêtes en dehors de ces moments-là. Donc, il ne peut pas y avoir une crainte de ressemblance. Une personne qui nous voit faire Salat al-Aïd dans cet endroit-là, il ne va pas se dire qu'on fait les mêmes choses que les mécréants font les autres jours dans leur moment de fête. Il comprend aisément la différence entre ce que l'on fait et ce qu'ils font. Et il n'y a ni une ressemblance, ni une entraide avec eux dans leur péché. Dans son explication, le Qawl Mufid ala Kitab al-Tawhid, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, parle de cette question que Omar ibn al-Khattab et que les compagnons ont prié dans des églises. Et il a dit, car la prière des musulmans n'est pas concordante, n'est pas la même que la prière des gens de l'église. Et en faisant cela, le musulman ne ressemble pas, n'imite pas les chrétiens dans leurs actes qu'ils font dans leurs églises, à la différence du sacrifice. C'est le même acte, celui qui sacrifie une bête pour Allah dans un endroit où les gens sacrifient pour autre qu'Allah, c'est la même chose. C'est le fait de faire couler le sang. Ici, la ressemblance apparente est visible. Et c'est pour ça que le cheikh a dit, si une personne veut prier dans un endroit dans lequel on égorge pour autre qu'Allah, il lui sera permis de prier. Mais il ne lui sera pas permis d'y égorger pour Allah dans cet endroit dans lequel on égorge pour autre qu'Allah. On sacrifie pour autre qu'Allah, tabarak wa ta'ala. Il a dit, ceci est permis car ce n'est pas le même type d'adoration que les associateurs font en cet endroit-là. Dixièmement, on ne respecte pas un serment si c'est pour désobéir à Allah. Onzièmement, on ne respecte pas un serment concernant des biens que l'on ne possède pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.